le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Désiré et Alain Frappier pour leur troisième roman graphique au très beau titre en forme de manifeste, je crois qu'on peut le dire, Le Choix. Ce roman graphique est paru aux éditions La Ville Brûle. Le week-end dernier, l'air était vibrant d'insectes et notre petit village de Haute-Ariège devenait ocre sous la lumière de printemps. Mon cœur était joyeux à l'unisson des prés vivement colorés. Malheureusement, ma gaieté fut assombrie par les larmes de Carmela. Son fidèle ami, le grillon Negrito, se posait tendrement sur ses paupières, l'obligeant ainsi à fermer les yeux. Negrito lui chantait une belle berceuse. C'était la première fois que je l'entendais chanter, ce grillon. Je respectais un long moment mes deux amis dans leur douce intimité avant d'oser demander ce qui rendait notre petite Carmela si malheureuse. J'avais davantage l'habitude de la retrouver en colère ou excitée par une action revendicative plutôt qu'en larmes. « Que t'arrive-t-il, Carmela? Quel est ce chagrin ? Au moins rien, renifla-t-elle. Ce sont les abeilles. »
Les abeilles ?
Oui, il y en a plein qui meurent dans les ruches de mon père et dans celles de nos amis. Ça crève le cœur de voir ça.
Oui, Carmela, je comprends, mais ce n'est pas la première année, non, que ça arrive.
Ben justement, je tendis un mouchoir à Carmela pour qu'elle essuie ses joues et son nez. Negrito en profita pour venir sur ma tête et m'instruire, comme il dit. À la bibliothèque, j'ai trouvé un article qui dit que deux études scientifiques viennent de démontrer la nocivité des néonicotinoïdes sur les abeilles.
Les quoi ? Demandai-je à notre savant Negrito.
Les néonicotinoïdes, ce sont des insecticides.
Ah oui, oui, c'est vrai, je me souviens. On en a beaucoup parlé, on a dénoncé les gauchos, panchos, ponchos et autres bambis. C'est marrant d'ailleurs les noms que leur donnent les industriels, non ?
Carmela avait repris du poil de la bête.
« Parce que tu trouves ça marrant, toi ?»«
Non, Carmela, je ne trouve pas ça marrant, mais je ne le découvre pas non plus. Je sais bien qu'on enrobe les graines avant de les semer en plein champ avec ces insecticides. Comme ça, la plante absorbe ses molécules par ses racines et les transporte dans sa sève pour imprégner tout son organisme et protéger ainsi la plante des insectes ravageurs qui passeraient par là, quelle que soit la partie de la plante qu'ils grignoteraient. » Ils sont intoxiqués et tués.
Ah, tu connais bien ça, et ça ne te choque pas, répliqua notre Negrito furieux également.
Si, bien sûr, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est tout.
C'est tout,
Carmela était rouge de rage. C'est tout, oui, comme les pauvres qui meurent dans la rue, c'est tout, comme les guerres un peu partout, c'est tout, comme les injustices.
Elle sortit de son sac à dos un papier froissé qu'elle déplia avec soin.
Sais-tu ce qu'a écrit saint Augustin ?
Tu sais, il a beaucoup écrit.
Ah ah, toujours ton humour de blasé et de résigné.
Alors, qu'a-t-il écrit sur les abeilles, saint Augustin ?
Pas sur les abeilles, mais pour toi et tous tes amis revenus de tout sans jamais avoir été nulle part.
J'étais de plus en plus mal à l'aise et attendais la citation de saint Augustin avec impatience comme une libération.
Voilà ce qu'il a dit, saint Augustin, à croire qu'il te connaissait.
À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver.
Désiré et Alain Frappier, vos deux noms sont inséparables, d'abord parce que vous êtes un couple, mais aussi parce que vous en êtes à votre troisième roman graphique, ces petits formats, enfin petit format, non, de demi à quatre, hein, c'est ça à peu près, combien
ils font ? Un peu plus grand.
Un petit peu plus grand, oui, quand même. En tout cas, vous êtes repéré maintenant dans tous les festivals de bande dessinée, mais c'est
autre chose, différent que de la bande dessinée. Et d'ailleurs, c'est presque comme un film, puisque à la fin, on va trouver des bonus, on va trouver... mais c'est aussi comme un livre, parce qu'on va trouver une bibliographie, on va découvrir de la documentation. Donc, on est là dans un style qui vous va très bien, parce que Désiré écrit les textes, et Alain les met en scène, les met en image, et fait revivre toutes les époques. Je dis toutes les époques parce que le premier, c'était Dans l'ombre de Charonne. Le second, La vie sans mode d'emploi putain d'années 80. Et là, nous sommes dans une période très particulière entre ces deux périodes et avec un thème très fort encore, le choix, c'est l'avortement. Le choix d'avoir un enfant, c'est le droit des femmes que vous avez voulu illustrer. Et on comprend à la page 73, c'est-à-dire pas tout à fait au début de ce roman graphique, pourquoi, quelle est la motivation profonde finalement sur une planche et dessinée Alain Frappier, en train de dessiner lui-même, et on voit sur son ordinateur une page un peu particulière où on peut voir un cintre, une paire de ciseaux, un bol ou une bassine d'eau chaude, et comme légende, parce que tout s'oublie. Vous avez voulu sortir de l'oubli cette histoire des femmes si longue, si douloureuse. C'est ça la motivation de le choix Désiré Frappier.
Oui, on a voulu sortir de l'oubli. Enfin, surtout, on a voulu sortir de l'oubli les combats qu'il avait fallu mener pour que la loi Veil puisse exister, parce que c'était les 40 ans de la loi Veil cette année. Mais cette loi n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu des milliers de gens qui s'étaient mobilisés, hommes et femmes, et qui avaient pris des risques énormes aussi, parce que les médecins à l'époque qui pratiquaient des avortements alors que c'était interdit risquaient de ne plus pouvoir jamais faire leur métier, et puis il y avait des gens qui n'étaient pas médecins qui en pratiquaient et tout ça. Mais on a voulu surtout se parler, en fait, on a parlé du droit des femmes, mais on a commencé par parler du droit des enfants. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous, parce que c'est vrai que les anti-IVG disent toujours « laissez-les vivre », et nous, ben, on sait d'ailleurs, quand moi je suis née en 59, c'est la première charte des droits des enfants, c'est en 59. Et ça fait scandale qu'on accorde des droits aux enfants. Hein. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de l'enfant roi, de tout ça et tout. Et en fait, moi, je m'appelle Désirée parce que je n'étais pas désirée. Et j'étais pas désirée pour la bonne raison que j'étais la troisième en 3 ans pour des parents tout jeunes. Ils avaient à peine 23 ans. Et à chaque fois, 11 mois près, donc ça fait quand même très très court. Et je me suis dit que j'étais légitime de parler de tous ces enfants qui ont peuplé les années 70, parce qu'on était très nombreux, qui n'avaient pas été désirés et qui devaient vivre quand même. Et c'était dur, c'était très dur. Et on n'en avait pas envie de cette vie-là. Et je me suis dit que c'était nous qu'allions dire, heureusement que l'avortement existe, parce que nous, on a envie d'être là, parce qu'on est désirés.
Parce qu'on est choisi. Alors, c'était du cynisme chez vos parents de vous appeler Désirée ?
Alors, faire des livres, ça console beaucoup de choses, même si on ne le fait pas pour ça. Mais en fait, je me suis dit souvent que c'était du cynisme, parce que quand j'étais petite, on me présentait comme ça. On disait, on l'a appelé Désirée, parce que ha, ha, ha. Alors du coup, voilà. Bon, en plus, à l'école, on me disait toujours, mais vous, là, ici, vous n'êtes pas Désirée. Donc, mais en fait, en écrivant ce livre, tout d'un coup, je me suis dit, et si c'était justement pour Mémé qui m'avait appelée comme ça ? Alors d'abord, mes parents étaient des cinéphiles. Mon père, mes parents étaient très cinéphiles. Et donc, mon père travaillait pour le cinéma. Donc, on avait les trois filles, on avait trois noms de courtisanes, en fait, hein, de grandes courtisanes du cinéma. Et moi, j'avais celui de Désiré. Mais je pense que c'était plutôt... Ça n'a pas marché, mais en fait, je crois que c'était gentil au départ.
Alors, vous évoquez le cinéma, là, qui a beaucoup compté pour vous. D'abord, la profession de vos parents, mais vous aussi, vous avez flirté avec le cinéma. Votre premier amoureux aussi, le père de votre fille.
Ah non, lui, il était musicien.
Ah, il était musicien.
Il était musicien. Mais c'est vrai que je pense que le cinéma, avant l'écriture, le cinéma m'a vraiment aidé à vivre. Ça a été quelque chose d'énorme pour moi. Et puis, même ce que je raconte dans la vie sans mode d'emploi, c'est qu'enfant, on a avec la petite fenêtre qu'on avait sur le monde, c'était la télévision. Et comme mes parents travaillaient pour le cinéma, on a vu tous les films de Capa, tout ça. C'était des films qui étaient pleins d'espoir, de choses. On a vu les comédies musicales. Mais Alain aussi est très cinéphile. On est l'un et l'autre très cinéphile.
Alors c'était là que je voulais en venir. Alain Frappier, vous signez les images, les dessins. Ce livre, il faut le dire, est en noir et blanc. comme un film de cette époque-là. Et la première page est vraiment comme les plans d'un film. On voit Désiré, donc enfant, dans une à l'arrière d'une voiture avec une valise à côté d'elle et éclairée comme elle aurait pu être au cinéma. Et puis on va avoir le quai d'une gare. Et puis cet enfant, presque un ombre chinoise entre ses deux parents assez éloignés, qui vomit. Et on va la retrouver dans le compartiment d'un train, toujours de dos. C'est vraiment un découpage de film, cette première page.
Oui, j'espère que c'est pareil sur les autres pages, parce que on est vraiment enfin moi j'aime beaucoup le cinéma, et puis tous les deux on aime beaucoup le cinéma, et on a une façon de d'envisager nos histoires comme ça, quoi. Et c'est un peu pour ça, une des raisons pour laquelle on travaille en noir et blanc, c'est aussi pour cela que par moment il y a des ruptures de style qu'on aime bien apporter pour changer on parle beaucoup de rythme, nous, quand on fait l'histoire. On aime bien que le lecteur il puisse respirer, ou des fois essayer de l'embarquer dans un quelque chose un peu frénétique, etc., comme on a dans un film, quoi.
Et ces ruptures sont très importantes. Alors le début parle très tranquillement, hein. Enfant, j'ai du mal à me faire aux virages qui m'amènent ailleurs, à l'effervescence des départs, aux brouhahas, des haut-parleurs, à l'image figée de mes parents glissant sur la vitre avant de disparaître, comme si c'était eux qui s'en allaient, me laissant seule avec ma valise sur la tête. J'ai une carte famille nombreuse, mais je voyage toujours seule, je change souvent d'école. 1970, c'est une bonne année, c'est ma grand-mère qui me récupère sur le quai de Biarritz, la négresse. C'est elle qui a demandé que je vienne vivre chez elle. J'entre en cinquième, je découvre la vie des villes et je trace des baies dans la marge de mes cahiers, B pour bien, B pour bonheur. Et va suivre un long poème. Ici, le bonheur porte des cuissardes, des shorts et des collants de couleur. Il y a des jambes immenses et
pousse des cris de mouette.
Ah, vous le savez par cœur. Il parcourt les rues, flotte sur les pans des longs manteaux qui me frôlent sur leur passage. Ici, le bonheur sent la mer en automne, les jardins de bambou, les haies d'hortensia et les feuilles de platane alourdies par la pluie. Il circule en solex, tandis que je m'accroche à son dos. Il joue à la crapette, fume des cigarettes américaines, écoute le jeu des mille francs et arrose les fleurs de son balcon avec l'eau savonneuse de son bain. Il court le long de la promenade, allant du casino à la plage Miramar, du sable humide sous la plante des pieds, etc. Ça me fait du mal de dire etc., parce que c'est un très long poème où vous décrivez le bonheur avec votre grand-mère, et si bien, grâce aux images aussi, les longs manteaux, les mini-jupes, les cuissardes, toute une époque.
Oui.
Vous l'avez écrit, ça a démarré votre travail d'écriture, Désiré Frappier, ce poème, ou il existait avant ?
Eh bien, c'est-à-dire que je pense que l'autobiographie m'a empêchée d'écrire pendant très longtemps, parce que c'était très lourd et que je revenais toujours au passé. Et en fait, j'ai essayé de faire un abécédaire à une époque sur ce que ça avait été cette vie à Biarritz. Et à B, il y a eu bonheur. Et du coup, j'avais commencé à travailler sur ce texte-là. Et pour raconter ce que c'était. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, en plus, c'est très typique des années 70, arrivé à Biarritz dans les années 70. Moi, j'arrivais de la campagne. Donc, les costumes, les vêtements, en plus, c'est ce que je montre aussi après dans le livre, c'est qu'à chaque fois que je devais partir de la maison, ma mère me mettait un beau vêtement dans ma valise. C'était un peu la récompense avant le départ. Donc, chaque année, j'avais ma tenue. Alors, après, on voit les chaussettes stem avec les shorts stem. Mais il y a ce côté-là qui a construit, et c'était important.
Depuis presque 25 ans qu'on est ensemble, j'ai vu les textes qui sont dans ce roman graphique, comme dans le précédent d'ailleurs, des textes qui ont été ébauchés des dizaines et des dizaines de fois, réécrits, et qui ont enfin trouvé leur place dans ces livres-là. Et moi, ça m'a ravi, parce que c'est un vrai plaisir de travailler des images avec ces textes-là, hein, vraiment.
Alors, Désiré Frappier, Alain Frappier, ce livre, Le Choix, vous l'avez présenté dans classes, troisième, collège donc, et seconde et terminale pour les lycées. Est-ce que les jeunes gens d'aujourd'hui, alors on va y revenir, hein, mais on décrit évidemment toute la lutte pour en arriver à la loi Veil. Il y a dedans, c'est vraiment d'une grande richesse iconographique sur l'époque. Il y a les slogans, les banderoles, les articles de journaux. C'est vraiment un document historique sur cette période. Est-ce que les jeunes gens le découvrent ?
Ah oui, ça, de toute façon, il n'y a pas que les jeunes gens, hein, parce qu'il y a jusqu'à 40 ans, jusque même les gens de ma génération, parce que moi j'avais 15 ans quand est passée la loi Veil, et du coup, ça c'est très vite oublié, parce qu'il n'y a pas eu de transmission. C'était quelque chose de tellement douloureux ce qu'a vécu les mères, que tout d'un coup on était libre. C'est un peu comme la fin d'une guerre, hein. À un moment je le dis, c'est un peu comme la fin d'une guerre, mais on a mis très très longtemps à parler de l'horreur qu'avait pu être la guerre de 40, par exemple. Les parents ont... Et du coup là c'est pareil, les mères n'ont pas transmis.
Vous dites d'ailleurs, les enfants portent les silences de leur mère, des silences qui se transforment en chagrin qui dure.
Oui. Je crois qu'on est toute une génération comme ça qui avons porté ces énormes chagrins-là.
Mais apparemment, vous me disiez, des jeunes filles aujourd'hui vous disent aussi le chagrin de leur mère.
Ben oui, il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent ou assister, ou quand on va dans les lycées, ou assister à nos présentations en librairie, et qui nous disent, je veux prendre le livre pour ma mère, parce que il y en a qui arrivent en pleurant en plus, hein, parce qu'elle dit, ma mère, elle a été complètement rejetée de sa famille, et ça a été quelque chose de terrible, et elle l'a très mal vécu, et du coup, avec nous, elle était très, très, des mères très possessives. C'est parce qu'on a répercuté ça sur nos filles en plus après, parce que tout d'un coup, ça a fait de nous des parents absolument en adoration devant nos enfants, parce que quelque part, nos enfants, c'était le début de notre famille, alors qu'on aurait dû avoir une famille derrière, mais on avait la famille devant, en fait, celle qu'on a faite. Et c'est ce que je dis à un moment, je dis, il faut que je fasse ma propre famille d'accueil.
Et une famille choisie, pour le coup.
Voilà, une famille choisie.
Et une jeune fille aussi qui vous dit qu'elle revisite le fait qu'elle soit d'une fratrie nombreuse.
Ah oui, alors ça, c'était une jeune Algérienne, à la fin d'une présentation aussi, qui est venue nous voir et qui nous a dit, ça m'a fait très, très, c'était énorme pour moi, votre livre et tout ça, parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais ma mère, ses 5 enfants, ben, peut-être qu'elle ne les voulait pas. Elle ne nous l'a jamais dit, mais peut-être qu'elle a eu 5 enfants parce qu'elle n'avait pas accès à la contraception. Et du coup, il y a une phrase de ma mère qui m'est tout le temps revenue, c'est ma mère disant, ah, mais moi, j'ai eu mon fils. Et il y avait un garçon et après, il y avait 4 filles. Donc, tout d'un coup, ça a remis en question ça. Et je pense que des fois aussi, ça nous arrive d'intervenir dans des lycées où on voit dans l'émotion des jeunes gens qui sont là, c'est que tout d'un coup, ils se posent cette question-là, parce qu'on ne se pose pas cette question-là. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, c'était important pour moi de le traiter du côté de l'enfant. C'est aussi un des côtés délicats de l'avortement, c'est que le jour où les mères vont dire à leur enfant, moi, j'ai essayé d'avorter, la première chose que va se dire l'enfant, même si c'est adulte, c'est elle ne me voulait pas. Alors que ça n'a rien à voir. En fait, c'est ce qu'on ne veut pas, c'est porter un enfant à ce moment-là. Mais pour beaucoup de gens, une fois que l'enfant est là, et jamais ils vont se dire, lui, je le voulais pas. Il y a encore aujourd'hui des enfants qui naissent sans que ça soit des grossesses qui ont été prévues, mais n'empêche qu'elles sont désirées.
Alors, désirées frappe. Oui, pardon.
Je voulais dire, pour revenir à l'histoire du cintre, par exemple, c'est que...
Alors, il faut décrire peut-être la planche, voilà, page 68.
On a fait une planche...
Là, voilà, on a une rupture.
On a fait une
rythme.
Sorte de catalogue, oui, une rupture de rythme et de terrible. Style même, parce que une sorte de liste qui est malheureusement non exhaustive de tous les outils ou les méthodes employées quand on n'a pas le droit d'avorter normalement, légalement. Et donc, il y a des choses absolument horribles, mais dont ce fameux cintre qui est figuré sur une affiche qu'on nous a montrée à Angoulême l'année dernière au Festival de BD. Et cette affiche-là, montrant un cintre avec une jeune femme qui le tient, où il y a marqué « plus jamais ça », on l'a présenté un certain nombre de fois à des jeunes dans les écoles, et personne ne peut répondre à quoi pourrait bien servir un cintre.
Oui, que veut dire cette affiche, voilà. En fait,
et que veut dire
pas
cette
le sens
affiche.
De l'affiche.
Donc, par contre, des femmes qui ont 60 ans, 50 ans savent répondre, mais la rupture, elle est totale avec les jeunes générations.
Alors, la rupture est totale avec les jeunes générations, mais dans les motivations aussi. Lorsque vous signez votre précédent roman graphique, La vie sans mode d'emploi, putain d'années 80, paru aux éditions Mots conduits en 2014, vous faites des signatures et il y a un jeune stagiaire qui vous écoute discuter avec des lecteurs qui vous demandent, mais quel est votre prochain prochain livre. Et là, vous dites que vous allez faire le choix, un livre sur l'avortement. Racontez-nous un peu, Désiré Frappier, parce que là, il va s'en suivre une dizaine de pages passionnantes.
Ben, c'était très troublant parce que c'était un jeune qui était avec une maison d'édition très branchée, assez engagée, tout ça. Alors, je me suis pas du tout attendue à tout d'un coup, je l'ai vu se renfrogner et me dire, ah ben moi, je suis contre l'avortement. Et il m'a commencé à m'aligner tout ce qu'on trouve sur les sites internet contre l'IVG, en fait. Hein. C'était quelqu'un qui était formé, hein, qui avait, ça sortait pas de lui tout seul parce que c'était des phrases et des mots et tout ça qu'on.
Et vous avez répertorié.
Mais parce que je les ai notés, parce qu'en fait, c'est très difficile. Déjà, j'allais pas, ce genre de choses, des fois, ça me bouleverse assez et c'était pas tellement la situation, l'endroit où je pouvais expliquer tout ça. En plus, je suis très démunie face à répondre face à ça. Alors moi, je dis toujours ça, je ressors toujours le slogan des années 70. C'est quand même plus chouette de vivre quand on est désiré, parce que voilà, c'est un slogan qui me parlait, mais j'arrivais pas. Et du coup, j'ai tout noté, et avec Alain, après, on est allé voir le planning familial, et on leur a dit, voilà, vous répondez à quoi, à ça. Et alors, on est reparti du planning familial, alors on a été reçu par Paris-Pierre Martinet, qui était vraiment extraordinaire, adorable, son accueil. Et alors, on est reparti avec une liste incroyable de livres. Elle me dit, vous devriez lire ça, qu'on a lu et ça nous a permis de répondre. Alors, en fait, on a fait, parce qu'il y a des gens qui disent, vous avez fait tout d'un coup un petit catalogue de réponses. Non, c'est notre vie. C'est ça, notre vie. C'est que tout d'un coup, des fois, on appelle ça, je crois, la réponse de l'escalier. On arrive dans l'escalier, on trouve la réponse, mais on n'a jamais la réponse tout de suite.
Sur le moment.
Il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient dit, mais qu'est-ce que je réponds, moi, quand on me dit que l'IVG, c'est horrible et tout ça. Et du coup, on met la question du jeune homme et on fait répondre et par des sociologues et par des médecins et par le planning familial à chacune de ces questions. Et il y en a une qui est très très intéressante. Par exemple, elles sont toutes intéressantes.
Mais c'est une double page, hein, voilà. Avec les questions, même triple, voilà. Avec les questions les arguments, voilà. Du jeune homme et les personnes réponses.
Alors par exemple, il nous dit que ce qu'on a entendu souvent et ces femmes sans état d'âme qui se font avorter 7 fois de suite. Alors bon, dans toutes les personnes qu'on a interviewées, personne n'avait entendu 7 fois de suite. Cela dit, ce qu'on dit, c'est que quand même, la gestion de sa fécondité, ça dure quand même plus de 40 ans. Donc, on peut avoir le droit à plusieurs erreurs pendant ces 40 ans, parce que les méthodes de contraception ne sont pas infaillibles. Mais surtout, c'est que le mot récidiviste, c'est-à-dire celle qui recommence, c'est criminel. C'est-à-dire, c'est quand on a fait quelque chose de mal, qu'on a été jugé comme quoi c'était quelque chose de mal, et qu'on recommence. Et en fait, ce n'est pas pour rien qu'on accuse les femmes d'être des récidivistes sans état d'âme.
Alors, vous allez citer beaucoup des héros du planning familial, oui. Mais aussi du MLF. On va écouter
et du MLAC.
On va écouter un extrait par les Jolis Mômes, qui est une compagnie qui est à Saint-Denis et que je vous recommande d'aller voir sur leur site et voir leur spectacle.
Aussi. Vous aussi,
ah ben ça tombe bien. Ils chantent l'hymne des femmes, qui était à l'époque chanté par les femmes.
Nous qui sommes sans passé, les femmes. Nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes. Acheté, vendu, violé. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Les femmes et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout.
Le temps de. On aimerait l'écouter en entier, mais allez, vous la retrouvez. retrouverez dans les disques des Jolies Mômes, ouais, cet hymne des femmes magnifique et qui nous donne encore la chair de poule et qui est chanté aujourd'hui par des jeunes filles. J'ai vu ça l'autre jour dans le métro, dans une rame de métro. Trois personnes l'ont chanté et les jeunes filles qui étaient là, des lycéennes, ont écouté et ont repris le refrain. Ouais. C'était splendide. Vous avez cité, alors il y a les bonus, je le disais tout à l'heure comme dans un film, Désiré et Alain Frappier. Il y a aussi quelques citations, il y en a beaucoup même, mais celle-ci de Nancy Houston, c'est en raison de leur pouvoir terrifiant de vie et de mort que les femmes ont été contrôlées et soumises par les hommes depuis la nuit des temps. On est en plein dans la chanson, là, d'ailleurs.
Oui, et puis alors moi, elle a écrit Bad Girl, en fait, en même temps, pratiquement, que ce livre a été écrit, donc je l'ai lu après, et ça m'a terriblement touchée, je le trouve magnifique.
Très parce beau que... livre que les jeunes peuvent lire aussi.
Oui, ouais. Il est très, très, oui, tout à fait, alors vraiment...
Vraiment, c'est un livre à recommander.
Magnifique, et puis elle dit plein de choses que moi, qui sont très délicates, très dures à dire, et elle les dit tellement bien, merci Nancy Houston.
Merci Nancy Houston, merci Désiré Alain Frappier pour ce magnifique roman graphique, Le Choix. Alors, juste peut-être une question, le planning familial, vous les avez rencontrés aujourd'hui. Et aujourd'hui, elles ont encore du boulot à faire.
Elles
n'ont pas toujours la facilité.
Elles ont de moins en moins de moyens. Hein, on a été invitées à Toulouse parce qu'on leur avait retiré les fonds. Elles ont moins en moins de moyens. Et c'est vraiment des gens extraordinaires parce qu'ils sont dans une tolérance et dans une écoute de l'autre. Leur apprentissage, c'est ça. C'est écouter les autres. C'est jamais fermer leur discours. C'est toujours vers l'ouverture, et c'est indispensable. Et j'ai des amis, beaucoup d'amis algériennes qui m'ont dit que pour elles, le planning familial, c'était vraiment très, très, très important parce que, elle dit, on est enlevé en France avec les autres françaises, on est élevé pareil, etc. Et le jour où on a nos règles, ben nous, on n'a pas le droit d'aller voir un gynécologue, on n'a pas le droit de parler de sexualité, on n'a rien. Du coup, très souvent, des accidents nous arrivent et on a le planning familial.
Et finalement, avec le choix, quand vous allez dans les classes, tous les deux, Désiré Alain Frappier, vous êtes un couple en plus. J'imagine que vous faites de la formation nécessaire encore aujourd'hui auprès des jeunes.
Ah oui, ils écarquillent les yeux quand on leur dit qu'on a le droit à la pilule du lendemain gratuitement. Il suffit d'aller dans une pharmacie, on n'a même pas besoin de donner sa carte d'identité et tout ça, et qu'on est mineur. Ils ne le savent pas. Et du coup, ils sont très très étonnés.
Donc, un livre à mettre dans toutes les mains, oui.
Voilà.
Le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin, c'est... Ben, nous, on croit beaucoup à comment les jeunes, quoi, comment ils vont le prendre, comment ils le font. Et c'est un vrai bonheur de faire un livre qui... On a quand même eu des amis qui nous disaient que leurs enfants n'avaient pas réussi à quitter le livre quand ils l'avaient pris, qu'ils l'avaient adoré. Des garçons de 17 ans. Et ça fait vraiment super plaisir.
Ce qui est étonnant, enfin, ce qu'on aime bien, c'est que nos livres, c'est à la fois la bande dessinée ou du roman graphique, mais aussi... des sujets qui concernent beaucoup les gens. Et voilà.
Et on passe de l'intime à l'histoire et de l'histoire à l'intime. Oui. Et ça, c'est un talent que vous avez tous les deux. Merci. Merci encore cette fois. C'est à La Ville Brûle, Le Choix, Désiré et Alain Frappier. Le temps buissonnier, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on peut télécharger cette émission sur le site de France Culture. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe. Aline Payet, aujourd'hui Vincent Abouchard à la réalisation, Annie Comier et à la technique, Alexandre Dang. Merci à tous. On a écouté aussi Les Jolies Mômes avec l'hymne des femmes. Le temps buissonnier, ça a filé trop trop vite encore une fois, puisque je vais vous laisser en compagnie de tous les programmes de France Culture et du premier journal de la journée sur notre chaîne, et vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.